Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business et 01TV présentent « De quoi je me mêle ?» François Sorel.
Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver comme chaque week-end, vous le savez, pour votre rendez-vous tech, à la fois sur 01TV, on est présent sur 01net.com, sur la chaîne YouTube, mais aussi sur BFM Business, le dimanche matin à la radio et à la télé, et sur la chaîne 01TV, sur les box. Avec au menu cette semaine, pour De quoi je me mêle, eh bien, le fondateur de Blablacar sera là, Frédéric Mazzella, mon invité. Alors, comment se porte la principale plateforme de covoiturage? Comment grandit-elle? Quelles sont les perspectives d'évolution? Comment a-t-elle vécu, par exemple, cette pandémie? Toutes ces questions qu'on posera donc à mon invité, ce sera dans la deuxième partie de quoi je me mêle. Et puis, surtout, n'hésitez pas toujours à réagir avec le hashtag DQJMM sur Twitter, la page Facebook qui vous attend. Merci encore une fois d'être là et bienvenue à vous tous. Et bien sûr, de quoi je me mêle pour débuter, c'est le club de la presse IT avec cette semaine Raphaël Grably qui est avec nous. Bonjour Raphaël.
Salut François.
Journaliste à BFM Tech et Emmanuel Paquette. Bonjour Emmanuel. Emmanuel que vous connaissez bien sûr, infidèle de quoi je me mêle, journaliste à l'Express. Messieurs, l'actualité cette semaine commentée par vous et on va commencer par une révérence. Voilà, un robot tire sa révérence. Alors c'est rare, c'est pas tous les jours que des robots disent au revoir. Même pas dans Star Wars en plus, ils reviennent régulièrement. Là, c'est quand même un robot français. C'était l'un des fleurons, on va dire, de la robotique française il y a quelques années, qui va disparaître. Emmanuel, il s'agit de Pepper.
Exactement, donc c'était le robot produit par Aldébaran. Aldébaran, société française, créée par Bruno Maisonnier. Donc c'était un robot humanoïde de compagnie. Alors l'idée... quand ça a été racheté par SoftBank en 2012, le groupe japonais, c'était d'en faire en fait un instrument de masse, un peu comme un smartphone. L'idée, c'était de dire aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, bah demain, tout le monde aura un Pepper à la maison pour s'occuper de soi. Donc pour ça, il fallait faire baisser le prix, autour de 2 000 $ encore aujourd'hui quand même, donc c'est pas rien. Et puis finalement, ils ont un peu loupé l'objectif, c'est-à-dire que ce robot, au lieu de rentrer dans les foyers, finalement, il rentrait plutôt dans les hôtels, à la réception des hôtels, même dans des McDo ou des choses comme ça pour accueillir les visiteurs, les clients. Et finalement, il a un peu loupé son objectif, ce qui est un peu dommage. Et surtout, il n'a jamais évolué depuis le rachat par SoftBank en 2012. Alors, il y aurait eu des tensions entre les équipes françaises d'un côté, japonaises de l'autre.
Et peut-être aussi des problèmes culturels, on va dire, entre la France et le Japon. C'est vrai qu'on n'a pas du tout les mêmes visions. On sait que les Japonais adorent les robots et les imaginent et fantasment dans certaines, on va dire, certaines actions, dans certaines utilités. Et alors que peut-être qu'en France, on avait une autre vision. D'ailleurs, c'est pour ça que finalement, tous les dirigeants d'Aldébaran, petit à petit, ils sont partis. Voilà,
partis. Exactement. Hein. Et donc là, effectivement, ils se seraient vendus à peu près 27 000 exemplaires de Pepper en l'espace de 6-7 ans. C'est quand même pas énorme. Et donc, face à la faible demande du marché, SoftBank a dit on arrête de commercialiser ce robot-là.
Ouais. D'ailleurs, si vous êtes avec nous à la télé, vous voyez de vieilles images. On avait eu l'occasion, avec mon camarade Jérôme, d'aller au siège social de Aldébaran. C'était à Issy-les-Moulineaux. C'était il y a plusieurs années. Et on avait rencontré à l'époque le fondateur qui nous avait accordé cette interview. Oui, Raphaël, c'est vrai que c'est un peu... c'est dommage parce que c'est vrai que c'était un peu le fleuron de la robotique française, ce Pepper, mais qui n'a jamais vraiment décollé.
En tout cas, d'un point de vue marketing.
Oui,
c'était au niveau marketing. Parce qu'en termes d'animation, en termes d'intelligence artificielle, je ne dis pas que c'est nul, pas du tout. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait, mais je veux dire, est-ce que c'est vraiment un fleuron? C'est difficile à dire. Et le problème, c'est l'usage. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est bien de présenter des robots pour faire futuriste. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait un usage.
Et puis, à quoi ça sert, surtout?
Il faut qu'il y ait un marché. Moi, ces robots, je les ai surtout vus dans les salons, sur les stands de la French Tech, pour faire des animations. Mais on comprend bien que ce n'est pas un marché en soi. Et on voit d'ailleurs comment des robots qui sont autrement plus perfectionnés, alors pas forcément dans l'intelligence artificielle, mais même dans la robotique. Je pense notamment à ceux de Boston Dynamics, qui sont des robots, quand on voit, c'est absolument phénoménal ce qu'ils sont en train de faire. Et même eux, ont du mal à trouver un marché. Et on imagine pourtant un marché beaucoup plus facilement, notamment, alors pas pour le grand public, chacun ne va pas se promener avec son chien un robot, mais par contre pour l'armée, pour des usages très spécifiques. Là, on peut percevoir quelque chose, notamment au niveau B2B, Mais c'est vrai que ça marque aussi peut-être la fin d'une sorte d'utopie, au même titre qu'on a eu la fin de l'utopie des voitures volantes en 2000. Je pense que le robot qui nous accompagne au quotidien, au même titre qu'un smartphone, on comprend bien que ça ne deviendra pas une réalité.
Pas tout de suite en tout cas.
Pas tout de suite, mais même après, ça dépend pourquoi.
Oui, pour que faire.
Même à la maison, on voit bien aujourd'hui déjà les assistants vocaux. En fait, finalement, c'est les assistants vocaux, ces robots. Et on voit bien qu'ils sont extrêmement limités. Je veux dire, que ce soit Alexa, Siri, Google Assistant, on leur demande une information simple, pourquoi pas, ça peut fonctionner. On leur demande de réagir et de fonctionner comme une vraie intelligence, on en est encore extrêmement loin. Donc je pense que voilà, ça faisait rêver. Là, on voit par exemple à l'image, pour ceux qui nous regardent, les robots de Boston Dynamics. Bon,
qui sont quand même, enfin voilà, on voit que
c'est pas le même niveau de robotique niveau, que Pepper qui fait coucou. Voilà, donc c'est autre chose. Et là, on comprend des usages vraiment peut-être industriels, peut-être militaires, mais la robotique comme, on va dire, accompagnement quotidien, on voit bien quand même que pour le moment, il n'y a pas tellement de raisons que ça marche, quoi.
Mmh. Ouais, c'est vrai.
Bon, voilà, une page se tourne avec Pepper, hein, qui deviendra peut-être un collector.
Oui. Après, derrière, ce qui est dommage, c'est que derrière, il y a des emplois qui sont supprimés.
Oui, exactement.
Il y a 160 emplois, je crois.
Oui, c'est ça, sur 300, sur un peu plus de 300.
Voilà, ça, c'est...
Donc,
voilà.
Et donc, en France, comme tu le disais, ici, les Moulineaux, toujours, hein, puisqu'ils sont là-bas. Donc, effectivement, c'est un coup dur pour la French Tech, l'image même de la French Tech. Alors, c'est plus vraiment français, puisque c'est l'actionnaire japonais, mais tout de même, quoi.
Allez, on enchaîne avec cette fameuse pénurie de semi-conducteurs qui enquiquine évidemment toute l'industrie hein, depuis plusieurs mois maintenant. Alors on l'a vu, hein, les constructeurs d'électronique sont touchés, l'industrie automobile aussi. Et puis voilà, un nouvel élu, si je puis dire, eh bien c'est toutes ces usines qui fabriquent en fait des cartes de crédit, hein. C'est que dans une carte de crédit, on a cette petite puce hein, qui nous permet de valider les paiements et de les crypter surtout. On risque d'avoir aussi des pénuries de cartes à puce.
Oui, en fait, c'est l'association qui représente en fait toute cette industrie-là qui a un peu tiré la sonnette d'alarme en disant si vous commencez à prioriser entre guillemets le marché de l'automobile, celui de la tech avec les ordinateurs, les fabricants d'électronique en public, nous, on va avoir de fait une pénurie de silicone pour fabriquer ces petites puces. Alors, pour en avoir parlé avec eux, ce n'est pas pour 2021. Il y a un risque éventuel en 2022, mais ça ressemble plutôt à du lobby pour dire aux hommes politiques arrêtez de vous concentrer uniquement sur le marché de l'automobile. Alors certes, parce qu'en France et en Europe particulièrement, on a des champions, hein, donc c'est un vrai sujet. Mais il faut aussi voir les effets de bord. Il faut faire en sorte que les autres qui produisent ces puces-là, donc en France par exemple, on a ST Microelectronics hein, qui fournit ces puces. En Allemagne, on a Infineon. Il faut qu'ils puissent avoir accès à du sourcing de silicone pour faire ces puces dont tu parlais. Donc effectivement, il y a une petite crainte. De ce que je comprends, c'est plus du lobby, encore une fois, hein, pour être dans le radar des hommes politiques européens. Mais bon, voilà, il n'y a pas pénurie pour l'instant, mais en tout cas, il y a une question qui se pose.
On a l'impression que voilà, il y en a aussi qui profitent hein, de cette pénurie pour se faire un peu remarquer et comme tu le disais, pour se servir de cette actualité hein, pour en faire du lobbying, non, un peu, Raphaël?
Oui. Alors moi, je trouve, alors je vais pas me faire des amis peut-être chez ces lobbyistes, mais je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que finalement, au même titre que le confinement, nous avait repensé nos déplacements et notamment le paiement mobile. Oui. Est-ce que cette pénurie de cartes à puce n'est pas l'occasion de se dire, arrêtons peut-être avec les cartes à puce aussi parce que ça pollue? Et pour le coup, contrairement aux automobiles qui sont très difficiles à remplacer, moi je serais politique, je dirais justement préserver beaucoup plus l'automobile et l'automobile électrique notamment, plutôt que les cartes à puce. Parce que les cartes à puce, alors encore une fois, là on parle entre initiés, entre personnes qui aimons la tech, mais bon, le paiement mobile commence à se démocratiser. Je veux dire, les cartes à puce deviendront virtuelles. Arrêtons avec les cartes à puce physiques qui polluent, qui sont très compliquées,
qui n'ont pas d'utilité. Sur mobile, hein, par exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec
sur mobile, à titre personnel, et je sais que je ne suis pas du tout représentatif.
Non, c'est vrai qu'on est encore.
Quand je sors de chez moi, je me sers plus du tout de mes cartes de crédit, je me sers même plus de mes codes, en fait, parce que le paiement mobile aujourd'hui est tellement simple et c'est tellement démocratisé que justement.
Sauf pour des dépenses de plus de 50 euros, où là, tu es obligé de rentrer un code.
Non, le paiement mobile.
Ah oui, bien sûr. Non, je parlais de la carte.
Non, justement, du NFC. Le fait de ne pas avoir de carte à puce, justement, aucune carte physique. Et en plus, on a quand même la chance d'avoir aujourd'hui des services totalement gratuits avec des acteurs qui sont hyper performants, que ce soit Revolut, que ce soit N26, il y a aussi des acteurs français qui permettent de générer des cartes éphémères en 2 secondes pour payer avec son mobile. Aujourd'hui, c'est justement l'occasion de se poser la question, est-ce qu'il n'est pas temps d'entamer ? Évidemment qu'il y a plein de gens qui ont encore besoin de cartes à puce parce que les usages ne sont pas toujours là pour
oui,
tout le monde.
Oui, parce que ça ne sert pas qu'à payer la carte à puce, hein. Il y a plein d'autres usages.
Oui, mais là, en tout cas, dans l'écosystème du paiement... On débattait du vote par Internet, autant là, je trouve que c'est compliqué, mais autant sur le paiement mobile, ça marche, c'est sécurisé, il n'y a pas d'autre enjeu que la sécurité et que le fonctionnement, les banques ont leurs responsabilités, il n'y a pas trop de problèmes, ça cartonne, ça marche bien. Voilà. Est-ce que finalement, ce n'est pas l'occasion de se dire, une carte physique, mise à part la pollution, moi, ça ne m'apporte rien, donc peut-être que c'est l'occasion, au contraire, de se dire, de passer un cap, voilà.
Ouais, ça va pas faire plaisir à Gemalto tout ça, hein. Enfin toutes ces boîtes là.
Gemalto maintenant qui appartient à Thales, hein, quand même.
Ouais, qui a été intégré dans Thales.
Mais de toute façon, comme le disait Raphaël, ils sont sur les deux. Hein.
Ils font
de la dématérialisée, ils font du matérialisé. Donc que ça passe de l'un à l'autre, pour eux, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu, si ce n'est de vendre plus de services autour de
dématérialisé. Il y a plein de choses à faire aussi.
Exactement.
J'avais reçu un responsable de Gemalto, donc Thales maintenant, qui expliquait que dans quelques années, la carte SIM, par exemple. C'était prévu dans la roadmap en fait de Gemalto, allait disparaître pour être remplacé par l'eSIM.
Voilà. Hein, donc, et au même titre qu'il y a l'eSIM qui se développe, il faut qu'il y ait la e-carte bloc, la carte dématérialisée.
Ouais. Mais encore faut-il que tout le monde ait pris l'habitude de payer avec son téléphone. Ce n'est pas encore le
cas. Ça va vite, ça se développe quand même assez vite. Mais quand je dis, évidemment, parmi les gens qui sont un peu geeks...
Ma mère, elle ne paye pas avec son téléphone.
Ça arrive et puis... Ça va se faire progressivement, mais en tout cas, s'il y a une pénurie de cartes à puce, je trouve que c'est aussi peut-être l'occasion d'avancer sur ces domaines-là.
Alors, sachant que c'est un peu comme dans l'eSIM, je pense qu'il y a quand même des forces contraires, des vents contraires. C'est-à-dire que dans l'eSIM, les opérateurs télécoms ont longtemps freiné. Ouais. Parce que ne plus avoir de carte SIM, ça veut dire de pouvoir changer d'opérateur.
Oui, à la volée.
À la volée en un clic.
Oui.
C'est plutôt bien pour le...
Très bien pour le consommateur.
Oui, pour le consommateur.
Moins pour l'opérateur. Eh oui, il a peur de voir des gens changer régulièrement en fonction des offres commerciales. Mmh. Donc, c'est vrai qu'ils ont plutôt freiné. C'était beaucoup poussé par Apple. Mmh. Apple disait, vous aurez des iPads et des iPhones sur lesquels vous choisirez à la volée votre opérateur.
C'est vrai, l'impulsion de l'eSIM, c'est Apple, ça, c'est clair.
Exactement. Mmh. Ouais. Et pour l'instant, il y a les freins des opérateurs quand même historiques qui sont aussi les plus gros clients d'Apple pour lui vendre des iPhones. C'est vrai que c'est compliqué, quoi. Apple est un peu entre deux chaises, là, pour le coup. Et je pense que c'est pareil pour les cartes bancaires, puisqu'en face, on a quand même le GIE carte bancaire, qui représente des acteurs importants, et puis il y a les banques aussi, hein, qui sont là, et qui, eux, n'ont pas vraiment non plus totalement intérêt à avoir une dématérialisation totale, de crainte de voir d'autres acteurs capter une partie des informations dont tu parlais, Revolut, par N26, et puis peut-être Apple Pay, etc. Donc, on y va en faisant attention pour ne pas se faire désintermédier par des nouveaux acteurs qui vont nous manger un peu la laine sur le dos.
Ouais. Et ce qui manque encore quand même, c'est du côté de Google et d'Android. Autant Apple a considérablement avancé, ils ont quasiment toutes les grandes banques maintenant depuis un an.
Ouais.
Ils ont toutes les banques et Google n'a personne. Enfin, ils ont que les banques justement. Google, ils ont les banques 2.0.
Ouais.
Sur Android Pay, Google Pay, ça fonctionne très bien avec les banques 2.0. Il y a pas mal de banques en ligne qui fonctionnent avec Android Pay.
Donc les néobanques,
donc ça, à la limite, c'est plutôt bien.
Mais les banques traditionnelles, historiques.
Google a du mal à les convaincre. Il y a des négociations qui doivent être effectivement très complexes.
Samsung est un petit peu plus dynamique sur ce coup-là. Arrive
quand
à en avoir
on regarde la liste des banques, il n'y a pas grand-chose.
C'est sûr que quand on compare face à Apple, il n'y a pas photo.
Mais sur Android et chez Google Pay, on peut avoir les néobanques. Et donc finalement, on peut quand même entamer cette démarche. Effectivement, quand on voit les Revolut, les N26, le service est juste incroyable. On génère sa carte éphémère en 2 secondes, on paye sur son mobile. C'est très simple.
Mais c'est vrai que c'est plutôt réservé, on va dire, à une clientèle jeune, branchée, qui comprend en fait tout ça. C'est vrai que, certaines personnes, Revolut et N26, ils connaissent pas. Et une banque, tu y vas que quand tu es sûr d'avoir un nom statutaire, tu vois.
Oui, bien sûr, mais c'est pour ça.
Pour les jeunes, c'est différent. On comprend les enjeux, etc. On sait très bien que N26 et Revolut, s'ils lancent une banque, c'est qu'ils ont tous les agréments et qu'ils le font d'une manière très sérieuse.
Évidemment.
Mais pour les personnes un peu plus âgées, c'est peut-être un peu plus compliqué à comprendre. On enchaîne avec Facebook maintenant. Facebook qui se porte plutôt pas mal et qui dépasse les 1 000 milliards de dollars en bourse. Après, vous le savez, cette décision de ce juge de ne pas poursuivre le réseau social, c'est aux US que ça se passe.
Oui, exactement. Alors, en fait, c'est la suite de plusieurs États qui avaient porté plainte contre Facebook, poussé aussi par la FTC, donc la Commission du commerce américain, le régulateur un peu du commerce américain. Et là, le juge a dit que les éléments apportés n'étaient pas suffisants pour entamer une procédure à l'encontre de Facebook. Alors, ce n'est pas totalement terminé, parce que le juge laisse 30 jours à la FTC pour apporter des éléments un peu plus probants, donc pour enclencher une éventuelle enquête et une éventuelle procédure un peu plus importante. Dans l'entretemps, on voit que les marchés financiers se sont dit « ça y est, maintenant les barrières à la croissance de Facebook sont en train de se lever ». Et donc, le cours de bourse a explosé, dépassé les 1000 milliards. Alors à côté de ça, en fait, on remet juste en contexte que Microsoft et Apple sont au-delà des 2000 milliards. C'est une première dans l'histoire de l'économie mondiale. Ces entreprises-là, aujourd'hui, 2000 milliards, c'est quasiment le produit intérieur brut annuel d'un pays comme l'Italie. Donc on voit que ces sociétés-là pèsent plus qu'un pays européen, Je ne parle pas d'un pays africain ou d'Asie.
Un pays émergent.
Exactement. Ouais. Donc c'est quand même fou. Et Facebook, est en train de les rejoindre. De ce club-là fermé des entreprises de 1000 milliards de dollars de valorisation, voire 2000 milliards pour deux d'entre elles.
Et on voit que ça embête, ça enquiquine les gouvernements, tout ça, parce qu'on sent qu'il y a une espèce de défiance aujourd'hui entre, on va dire, les États et ces géants de l'Internet qui, pour certains, sont plus puissants qu'eux. Et on voit qu'il y a une espèce de fronde et de régulation qui est en train de se mettre en place. C'est compliqué, tout ça.
Je pense qu'on va arriver dans une période où partout, sur tous les marchés européens notamment et les marchés américains, les GAFA, quand je dis les GAFA, oui, ça va être Google, mais ça va être beaucoup Facebook, pas mal Apple aussi, pas mal Amazon aussi sur ces sujets de la concurrence où, si on regarde le cours de bourse, ça va être compliqué à suivre parce que des décisions sur la concurrence, il va y en avoir beaucoup. Alors là, c'est une bataille gagnée par Facebook. Parmi d'autres, il y en a plein. Facebook est attaqué un peu partout. Mais
ils ne gagnent pas toujours,
Ils ne gagnent pas toujours, mais aussi Apple. Mais aussi... Et en fait,
on voit qu'ils ont perdu face à la presse en Australie, notamment.
Oui. En fait, je pense qu'on va entrer dans une décennie, après la décennie de l'explosion des GAFA, on va entrer dans la décennie
de leur épanouissement.
Là, on va entrer dans la décennie de la régulation. Et à mon avis, il va y avoir des tas de décisions qui vont remettre en cause, que ce soit la vente de leurs services, leur modèle économique, l'intégration des entreprises rachetées. Est-ce qu'il faut démanteler Facebook avec Instagram? On voit ce qu'ils sont en train de faire avec WhatsApp pour encore rapprocher WhatsApp, envoyer et mutualiser en fait les données, notamment de paiement, pour ensuite refaire de la... Enfin, on voit bien qu'il y a une tentative, notamment de Facebook, mais de l'ensemble des GAFA, de grossir. Et au bout d'un moment, on va entrer dans cette phase de régulation. Mais d'ailleurs, pas que pour les GAFA. Moi, je pense aussi forcément à des boîtes comme Uber, comme Deliveroo, qui sont toujours, j'ai envie de dire, un peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que... Non, mais c'est vrai, il y a certains pays où les livreurs, les chauffeurs vont être connus comme salariés, d'autres où ça va pas être le cas. D'autres, on va leur demander d'apporter une couverture sociale. Et alors, je trouve que pour les GAFA, le cours de bourse va beaucoup dépendre
De
certaines décisions.
Oui, de ces aléas de météo.
De la régulation. Soit des décisions de justice, soit des grands projets de régulation comme ce qu'on a en Europe avec le Digital Services Act et surtout le Digital Market Act. Mais par contre, pour des boîtes, parce qu'à la limite, Facebook, Apple, Amazon ont quand même une assise. J'ai envie de dire, même si Facebook est démantelé, demain, ils vont continuer à gagner de l'argent. Uber, demain. L'ensemble de ces marchés, les chauffeurs doivent être des salariés. Je ne crois pas tellement à la survie d'Uber. Pareil pour Deliveroo. Déjà, on voit qu'ils ont du mal à gagner de l'argent avec des auto-entrepreneurs. Donc pour moi, il y a aussi toute une catégorie de boîtes qui sont, moi c'est ce que je dis souvent, qui sont toujours à une décision de justice de la faillite. Et c'est là où va falloir, à mon avis, faire attention. Et concernant les GAFA, ça pourra leur faire mal, mais l'enjeu sera plus des notions de valorisation. Mais après, de mettre en jeu leur santé économique. Je veux dire, si demain, au pire du pire, pour Facebook, on dit on vous force à revendre Instagram et on vous force à revendre WhatsApp, Instagram, ça pourrait leur faire mal quand même. Mais leur survie ne sera pas en jeu non plus.
Oui, mais on voit aussi que tu évoquais tout à l'heure Apple. Hein, si demain, on a un store alternatif sur l'iPhone, je veux dire, c'est quand même... c'est une sacrée claque pour Apple, quand même, dont une partie du modèle économique repose, justement, hein, sur cette exclusivité de vente de logiciels, etc. Donc, c'est assez intéressant.
D'ailleurs, je leur demandais, on avait eu un échange sur, justement, ces fameux problèmes de concurrence, où ils parlaient notamment de la commission. La commission qu'ils prenaient de 30% ou de 15%
oui, sur les petits... c'est ça qui cristallise un petit finalement. Peu toutes les tensions. Hein.
Je leur ai demandé, qu'est-ce qui serait le pire pour vous? Est-ce que ce serait de voir votre commission baisser ou est-ce que ce serait de voir l'arrivée
d'un store alternatif?
Ils m'ont dit non, le problème ce serait le store alternatif.
Bien sûr,
là on perd la main.
Évidemment.
La commission qui serait baissée, c'est une perte économique, mais qui peut parfaitement se compenser.
Oui, bien sûr.
Le store alternatif, même si dans un premier temps, je pense que ça changerait pas grand-chose, parce que de toute façon
les gens. Dans 5 ans, 10 ans, quand ça commencera à rentrer.
Si on commence à avoir des énormes développeurs qui décident d'être que sur un store alternatif,
Fortnite,
Epic Games, ils vont se faire un plaisir d'aller uniquement
évidemment.
Sur un store alternatif.
Emmanuel, chose à rajouter là-dessus, sur ce sujet?
Non, effectivement, après, il faut voir, je rebondis sur ce que disait Raphaël, par exemple, quand on regarde Uber, il faut aussi regarder les concurrents, parce que contrairement à Facebook, qui est ultra dominant sur son marché, Uber, il y a quand même Lyft en face, qui est assez puissant, et puis il y a Didi, qu'on oublie un peu, hein, qui est l'équivalent chinois, qui vient de faire son introduction en bourse, qui est valorisé maintenant 67 milliards depuis aujourd'hui. Donc c'est une des plus grosses introductions en bourse de l'année. Et Didi, qui fait 90% de son chiffre d'affaires en Chine, là effectivement avec des chauffeurs qui ne sont pas salariés hein, pour le coup, ont dit explicitement qu'ils allaient attaquer le marché européen, notamment le marché français. Ah, donc on va se retrouver en France avec
un nouvel
entrant. Ce qui est moins le cas dans les réseaux sociaux avec Facebook. Alors effectivement, il y a TikTok qui a émergé ces derniers temps. Hein, donc on voit que rien n'est figé. Il y a toujours des nouveaux acteurs qui arrivent. Mais donc en fonction des marchés, on voit que la nécessité de réguler n'est pas la même. Parce que la puissance des GAFA n'est pas la même en fonction de là où ils sont. Ou même Uber ou ce qu'on appelle les NATU. Donc Netflix, Airbnb, Uber... et j'en ai oublié un mot, et Tesla, pardon.
Tesla.
Donc les NATU qui
c'est
sont...
le T de NATU.
Exactement, donc c'est la nouvelle vague. Mmh. On voit eux-mêmes qui sont quand même pas mal concurrencés par des nouveaux acteurs. Bah, Netflix avec Disney, Uber avec Lyft et Didi. Tesla, on voit aujourd'hui qu'il y a plein d'acteurs qui essaient de venir sur l'électrique. Donc il y a une situation un peu différente de celle des GAFA quand même, qui eux sont vraiment en situation oligopolistique, voire monopolistique.
Cette année, enfin les années qui viennent vont être passionnantes, c'est sûr, hein. Il y aura des changements et des décisions importantes qui vont être prises. Tiens, on parlait de Tesla, on va peut-être enchaîner avec Elon Musk, puisque vous le savez, hein, il a Tesla, il a énormément de projets, notamment spatiaux, et Starlink, avec cette volonté de couvrir l'Internet, d'Internet au débit, toute la planète, grâce à cette constellation de satellites. Je crois que c'est 30 000 satellites, et voire même 60 000 à terme. Enfin, c'est incroyable, vous vous rendez compte, 60 000 satellites. Alors, c'est des petits satellites hein, qui ressemblent à des boîtes à chaussures, qui peuvent être envoyés par dizaines et par dizaines via une fusée, et qui, petit à petit, vont recouvrir toute la planète pour... avoir cet Internet très haut débit. Évidemment, ça coûte une fortune. Hein, et Elon Musk cherche de l'argent sur ce sujet.
Oui, il a annoncé au World Mobile, le Mobile World Congress, je l'ai mis dans le mauvais sens, donc à Barcelone. Donc c'est la grande réunion annuelle hein, des opérateurs télécoms et du monde des équipements
télécoms. D'habitude, c'est la grande réunion. Cette année, on va dire que ça a été la petite réunion.
En tout cas, ça redémarre.
Ça redémarre tranquillement.
Elon Musk a fait une intervention en disant qu'il avait besoin de 20 à 30 milliards de dollars pour continuer à envoyer ces satellites dans l'espace, parce qu'aujourd'hui, tu mentionnais 20-25 000 satellites à terme. Aujourd'hui, il n'y en a que 1000, que 1500. Hein. Donc, on voit l'écart qui reste à combler, avec quasiment 69 000 clients en pré-test, majoritairement aux États-Unis, de ce que je comprends, pour voir si le service fonctionne comme il faut. Sachant qu'en plus, ces satellites-là sont en orbite basse, donc ont tendance à tomber dans l'atmosphère un peu plus rapidement, donc il faut les renouveler. Donc c'est vrai qu'il faut beaucoup d'argent. C'est-à-dire que la contrepartie du coût, où on en envoie beaucoup pour pas cher à une orbite relativement basse, bah, la contrepartie, c'est qu'il faut renouveler la flotte de temps en temps. Donc c'est vrai que c'est capitalistiquement très gourmand. Et donc Elon Musk a besoin d'argent pour continuer à financer cette constellation de satellites.
Après, est-ce qu'il y a un modèle économique derrière tout ça? Est-ce que, alors, au-delà de cette beauté du geste, hein, parce que c'est quand même formidable de se dire que le monde entier pourrait être couvert par de l'Internet très haut débit, et quand on dit très haut débit, à terme, ça serait le gigabit, hein, en théorie, avec Starlink, hein, et des temps de latence très très faibles, enfin relativement faibles, Est-ce qu'il y a un modèle? Est-ce que finalement, ça ne viendrait pas concurrencer aussi les opérateurs télécoms?
Moi, je pense qu'il y a un modèle. Je pense que c'est peut-être le projet le plus important d'Elon Musk sur la vie des gens, en fait, sur ce qui pourrait changer la vie des gens. Parce que oui, bon, évidemment, Tesla, c'est une magnifique boîte. Mais enfin bon, ça ne changera pas la vie des gens, sauf pour les gens qui
aiment. On n'aura jamais autant d'utilisateurs d'Internet que de conducteurs de Tesla.
Exactement, Tesla, ça reste Epsilon. SpaceX, c'est magnifique ce qu'il fait. C'est de la conquête spatiale, encore une fois, dans le quotidien. Mais là, moi, pour moi, Starlink, c'est le plus beau projet d'Elon Musk. Je veux dire, c'est quelque chose... Et on y pense depuis des années. Il y a eu plein de projets, notamment de Google.
Il y en a toujours, d'ailleurs.
Il y en a plein, mais je veux dire, il y a aussi Google, Facebook qui ont essayé, qui travaillent toujours un peu dessus. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est le plus avancé. Et c'est vrai que...
En tout cas, c'est celui qui fait le plus de bruit. Hein, ouais. Celui qui est le
assez concret. Je veux dire, ouais, là, pour le coup, Elon Musk, il y a souvent beaucoup de bullshit, mais là, c'est quand même quelque chose d'assez concret, avec des tarifs quand même qui sont accessibles. Alors en France, ça nous paraît cher, parce qu'on parle d'abonnement à 100€ par mois, mais pour les Américains, c'est finalement un prix assez classique.
Oui, c'est le prix équivalent à une offre, on va dire, filaire.
Voilà, mais après, moi, je pense notamment à des zones partout dans le monde qui vont devoir être connectées à Internet et qui ne peuvent pas l'être parce que amener la fibre partout dans le monde, je veux dire, c'est un projet qui est juste monumental. Et d'un point de vue économique, je pense que c'est stratégique. Alors, concurrencer les opérateurs, ça dépend où. En France, je ne pense pas parce que... Enfin, quand je dis en France, dans pas mal de pays européens, je ne pense pas parce que la fibre se déploie assez vite et que dans les centres urbains, je veux dire, en France, on a un forfait fibre aujourd'hui pour 20-30€. On n'a pas un intérêt à aller faire du Starlink. Par contre, dans des zones rurales en France, ça commence à devenir sacrément intéressant parce qu'aujourd'hui, les offres d'Internet par satellite, elles sont quand même pas terribles, très chères et peu performantes. Mais par contre, si on raisonne à l'échelle globale, c'est évident que pour moi... Ça peut tout changer.
Et puis en plus, ça veut dire que d'un coup, d'un seul, enfin dans quelques années, on n'aura plus de zone blanche.
Non, mais voilà, c'est ça.
On se retrouvera, et ça va même rendre un sacré service en fait à tous les gouvernements qui aujourd'hui se battent à coups de milliards pour essayer de couvrir tout le territoire. Et là, d'un coup, finalement, voilà, on pourrait être dans une ferme perdue au milieu de nulle part. Donc voilà, avec une petite parabole, on se retrouvera avec une connexion quasi fibre.
Et après, est-ce qu'il va falloir répartir ces connexions intelligemment pour dans certains pays où 100$ représente une somme trop importante, voilà, redistribuer ensuite ces réseaux? Est-ce qu'il va falloir que les États les subventionnent? Et que, comme tu dis, ça leur évite des investissements, donc ils ont aussi intérêt à le subventionner.
Le prochain client en fait de Starlink, ça va être les opérateurs télécoms qui vont se servir de cette technologie, à mon avis, pour couvrir en 4G des zones qui vont être compliquées à couvrir par des moyens traditionnels.
Exactement, soit ils font du B2B et ils prennent les opérateurs comme relais. Par exemple, je pense dans les avions aussi, ça peut très très bien marcher. Le Wi-Fi dans l'avion, ça peut peut-être baisser les coûts aussi, rendre beaucoup plus simple. Bon, ça concerne Epsilon, hein, mais bon, ça peut être un des usages. Mais clairement, l'usage pour le très grand public et pour le monde entier, pour moi, c'est soit des subventions par les États, soit par les opérateurs. Mais c'est vrai que quand on parle de connecter la planète, là on y est au sens propre. Et je pense que c'est une avancée considérable. Et je pense que c'est le projet d'Elon Musk.
Oui, sans doute
le plus fondamental pour changer.
Le plus concret
et le plus massif, voilà, le plus important au niveau global.
Après, il y a aussi d'autres initiatives. Hein. Je crois que Jeff Bezos a un truc aussi dans ses cartons.
Oui,
là-dessus.
Pareil, une constellation satellite également.
Il y a aussi un projet européen, visiblement, avec les Européens, mais bon, avec les Anglais qui sont dans le coup aussi, avec un autre investisseur, je crois, cette fois-ci français.
Alors, il y a OneWeb qui était en faillite.
OneWeb, voilà.
Qui était une constellation satellite qui a été repris par le gouvernement britannique et par l'Indien Bharti, sans vouloir faire de bêtises, et qui a été rejoint par Thales récemment.
C'est ça.
Donc effectivement, il y a un Français maintenant au sein de OneWeb. Et à côté de ça, il y a toujours une initiative européenne de lancer sa propre constellation avec un appel d'offres. Et là, on est encore en train de voir où ça va aller.
Et on revient toujours à cette souveraineté, hein, c'est-à-dire qu'on se dit, ça serait bien aussi d'avoir notre propre projet d'Internet par satellite.
Après, voilà, ce sera de la concurrence, au même titre qu'on a de la concurrence chez les opérateurs. Évidemment. Donc après, il faut espérer que ces constellations ne posent pas trop de problèmes en termes de débris, de gestion, il y a beaucoup d'enjeux écologiques, de débris et même tout simplement de gestion au quotidien. Mais c'est vrai que si on arrive à gérer tout ça, on aura des opérateurs concurrents. Et puis on gardera, je pense, la fibre pour certaines infrastructures qui, elles, doivent être accordées, j'ai envie de dire.
Filaire.
Filaire.
Après, dernier peut-être un point, c'est que ça pose pas mal de questions quand même aussi au niveau de la sécurité nationale de tous les pays. Parce que donc, quand on discute un peu avec l'armée, ils savent qu'il y a des lancements réguliers de partout dans le monde, Chine, États-Unis, etc. Mmh. Et que la plupart du temps, c'est pour lancer soi-disant des satellites commerciaux, pour apporter de l'Internet au débit, des télécoms ou de la télévision hein, aussi par satellite. D'accord. Et il se trouve qu'ils découvrent...
Il y a des petites cachoteries.
Ouais, il y a des cachoteries. Ouais. C'est-à-dire que la plupart du temps, les satellites ne font pas que ça. Ils font aussi de la surveillance du renseignement militaire.
Ils ont un capteur supplémentaire. Oui. Oh, je ne sais pas pourquoi, il est là.
Ils peuvent aller s'approcher...
Avec un énorme zoom.
Ils peuvent s'approcher d'autres satellites pour faire de l'espionnage. Voire de détruire d'autres satellites. Avec un bras, etc. Il y a plein de simulations actuellement de comment on peut aller détruire un autre satellite. Ou en prendre le contrôle via du hacking et de lui faire vider ses réservoirs dans l'espace, par exemple, puisque c'est déjà arrivé. Donc il commence à y avoir aussi beaucoup de soucis, de conflits dans l'espace qu'on ne voit pas encore, mais qui vont arriver.
Dernière petite news avant d'accueillir mon deuxième invité pour terminer ce club de la presse IT, c'est l'actualité dans le monde du jeu vidéo. Raphaël, tu as détecté ça. On aurait peut-être bientôt, dans nos consoles, sur certains jeux, de la publicité qui pourrait arriver. Alors que c'est des jeux qu'on paye, non, la plupart du temps.
Oui, c'est un projet d'une boîte. Alors, j'ai un trou de mémoire sur le nom de la boîte, mais on va. Axios, c'est le média qui a relayé, mais.
Ah oui, pardon. Excuse-moi,
j'ai un trou de mémoire sur le nom de la boîte. Il faudrait que je le retrouve. Mais de toute façon, c'est un acteur B2B qu'on connaît.
C'est secondaire.
C'est secondaire. Mais en gros, qui développe une technologie pour mettre de la publicité sur le jeu, notamment sur le jeu fixe, le jeu de salon, le jeu console, le jeu PC. Parce que la pub sur le jeu mobile, ça, on en a depuis longtemps. Et alors, c'est un peu le même principe que ce qu'on a sur certains jeux mobiles, c'est-à-dire de la pub qui permet d'avoir des bonus, quoi. C'est-à-dire soit d'avancer plus vite dans la partie, d'avoir des skins, d'avoir plein de choses en plus. C'est une évolution. Alors, il y a eu quelques petits éléments. Déjà, je crois que sur le jeu de basket... NBA 2K, je pense, il y avait déjà eu un peu de pub qui avait fait un peu gueuler les joueurs.
Un peu grincer
des dents, mais c'est vrai que ça marque l'arrivée. Et moi, je trouve ça un peu inquiétant quelque part de la pub dans le jeu payant et dans les produits payants. Et je trouve que c'est un mouvement de fond qui est en train un peu de tâtonner pour voir si ça prend, si ça ne génère pas trop d'inquiétude, mais c'est vrai qu'il y a eu des accords qui ont été signés, notamment avec EA, donc ça pourrait concerner des jeux bien connus. Il n'y a pas de titres qui sont cités, donc je ne vais pas en citer, mais on voit bien que EA
c'est FIFA hein, quand même.
FIFA quand même derrière. Et donc, voilà, les joueurs pourraient être amenés à avoir des spots de pub. Alors, l'intérêt, c'est aussi que ce soit coordonné en fait, avec des grandes campagnes, par exemple télé. Parce que le problème des annonceurs, c'est que d'un point de vue marketing, ils veulent faire une grande campagne nationale en même temps à la télé, ils disent oui, mais le problème c'est que les jeunes regardent beaucoup moins la télé, donc il faut les cibler en même temps. Et donc de déployer comme ça des campagnes en même temps à la télé et sur demain peut-être un jeu de foot, un jeu de basket,
c'est ça qui est
en simultané.
Le jeu vidéo aujourd'hui c'est un vrai média quoi, qu'on peut saucissonner comme de la pub.
Exactement, mais encore une fois, alors la pub ne serait pas obligatoire, c'est-à-dire qu'on la regarderait si on voulait des choses en plus.
Oui. Mais il y aurait une contrepartie.
Mais je trouve qu'il y a de plus en plus maintenant de la pub qui arrive sur des produits payants. Alors c'est un avis personnel, je trouve ça peut gêner. On a vu sur les smartphones Xiaomi, alors moins en Europe, mais notamment en Chine où il y a beaucoup de pubs sur les smartphones Xiaomi. Moi à titre personnel, par exemple, sur les télé Samsung, il y a de la pub.
Ouais, mais alors juste un truc, moi je suis en train de regarder une très bonne série sur MyCanal. Et j'étais surpris d'avoir un pré-roll de publicité.
Oui, sur MyCanal aussi,
sur
par exemple, c'est vrai. Y a...
alors que bon, c'est quand même un service qu'on paye.
Après,
qu'on paye
Canal
quand même
Plus,
plutôt cher.
Il y a de la pub sur Canal Plus.
Je veux dire, Netflix fait ça demain, ils se font assassiner, en fait.
Ah, Netflix, oui, complètement.
Voilà, parce que c'est vraiment le modèle, quoi.
Ils le font dans les séries Netflix. C'est-à-dire qu'ils mettent des placements produits. Donc c'est
ouais, mais bon, ça, tout le monde le fait.
Mais tout le monde le fait, évidemment. Mais
à la limite, ils ont un pré-roll avant une série, alors que c'est un service qu'on paye.
Oui, à la limite. Mais bon, c'est vrai, mais Canal, quelque part, même sur les tranches en chiffres encryptés, il y a déjà eu de la pub. Mais c'est vrai que là, sur des... Je trouve qu'il y a un côté intrusif qui est un peu différent. Dans le jeu vidéo qu'on a acheté, on va se voir proposer de la pub.
Oui, bien sûr, je suis d'accord. Même sur des services premium.
Et moi, je t'avoue que sur ma télé Samsung, d'avoir une pub, quand j'allume ma télé Samsung en bas dans le bandeau, d'avoir des carrés publicitaires, je me dis... Il y a un moment, on paye une télé. Non, mais quand est-ce qu'il faut. Qu'il y ait un modèle enfin, gratuit.
Tu avais une grosse réduction dessus. C'est peut-être pour ça.
Ah, je crois que c'était ce fameux Black Friday.
C'est le fameux ODR. On s'est
c'est
dit,
mon ODR qui me font payer.
On va lui faire une réduction de je ne sais pas combien d'euros. On va lui mettre la pub dedans.
Non, mais voilà, je trouve qu'il y a quand même deux modèles économiques. C'est gratuit avec pub et payant sans pub. Et il y a une porosité qui est en train de se créer entre les deux qui, je trouve, est un peu désagréable.
Et ben, ça sera le mot de la fin, les amis. Merci à tous les deux. Merci Emmanuel.
Merci beaucoup.
Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express, qu'on peut lire et que je vous invite à lire à la fois sur la version papier, mais aussi la version digitale, exactement, comme on dit. Et Raphaël aussi. Raphaël qu'on peut lire, bien évidemment, sur BFM Tech et qu'on retrouve régulièrement sur BFM Business, BFM TV et 01 TV. Vous restez avec nous. Invité exceptionnel dans un instant. J'ai le plaisir vraiment de recevoir Frédéric Pazella, le fondateur de Blablacar. À tout de suite.
BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle, François Sorel.
Le retour donc de quoi je me mêle. Merci d'être là le dimanche matin sur BFM Business, vous savez, à la radio, à la télé, 01 TV, sur tous les canaux, hein, que ce soit en audio, bien sûr, De quoi je me mêle. Pour tous ceux qui sont un adepte du sport et qui nous écoutent. Et puis vous pouvez aussi nous regarder sur 01 TV, la chaîne, sur les box, sur YouTube, 01net.com. Voilà, vous savez tout. Pour cette deuxième partie, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Mazella. Bonjour Frédéric.
Bonjour François.
Et merci d'être avec nous. Je suis très heureux de te recevoir dans De quoi je me mêle. Le fondateur de Blablacar est notre invité aujourd'hui. Et franchement, si on peut avoir une fierté d'une entreprise vraiment tech et qui rayonne à international, c'est bien Blablacar. Frédéric, on va revenir un petit peu sur ce succès de Blablacar, sur les moments un peu compliqués aussi, hein, avec la pandémie, le confinement qui a vu s'effondrer évidemment le trafic de Blablacar, ce qui est tout à fait normal parce qu'on était tous bloqués à la maison. Voir si ça repart, si le déconfinement redonne envie aux gens de partir. Et quand on voit que la France est plébiscitée pour les déplacements et pour les vacances, j'imagine que ça va être le cas. Mais peut-être revenir un peu sur les fondamentaux de Blablacar. Sa vie, son œuvre. Blablacar a été donc créé par toi. Et c'est parti, je crois, eh bien d'une problématique que tu as voulu résoudre.
Ouais, alors c'est une histoire qui est assez symptomatique d'ailleurs de l'usage de Blablacar aujourd'hui, mais c'est au moment de la période de Noël, je devais rentrer en Vendée.
Pour, tu es dans Vendée, hein.
Je suis Vendéen, ouais, voilà. Et je devais faire donc Paris-Vendée au moment des fêtes de Noël. Je m'y suis pris tellement tard que tous les trains étaient complets et que j'ai vu le moment où je ne pourrais pas passer Noël en famille.
Et qu'est-ce que tu faisais de ta vie à l'époque ?
Je travaillais pour une société d'informatique. On faisait des solutions pour les réseaux télécoms et bancaires. Donc j'étais à la fois développeur informatique, puis ensuite solutions architect, ça s'appelle, c'est-à-dire que je concevais des solutions, des prototypes pour des opérateurs télécoms.
On est en quelle année là ?
Ça, c'est 2004.
2004, d'accord.
Ouais. Et du coup...
t'es dit, comment je vais faire ? Il n'y a plus de train, comment je vais rentrer en Vendée ?
Et donc j'ai
parce que tout le monde t'attendait à la maison, là.
Voilà. Et j'ai appelé ma petite sœur qui avait une voiture et qui habitait à Rouen. Et je lui ai demandé si elle pouvait faire un crochet par Paris pour passer me prendre. Donc elle est passée me prendre, elle m'a retrouvé vers Porte Dauphine. Et... après, on est descendu en Vendée et sur l'autoroute A10, je ne sais pas si tu l'as déjà prise, enfin, j'imagine que oui. Enfin, sur l'autoroute A10, on voit passer les TGV qui vont plus vite que les voitures quand même. Donc, et là, je vois passer un TGV, deux TGV et puis je me dis, mais en fait, des places pour aller en Vendée, il y en avait plein. Mais elles n'étaient pas dans les trains, elles étaient dans les voitures. Parce qu'en même temps, je regarde toutes les voitures vides et je me dis, il faut juste...
Et à part le conducteur, la plupart du temps, il n'y a pas grand monde dans les voitures.
Il faut juste faire un moteur de recherche qui va indexer et permettre de réserver les places dans les voitures plutôt que de réserver les places dans les trains, ce qu'on fait déjà. Et donc, de ce moment-là, je n'ai pas, j'ai pas dormi en fait, pendant 72 heures. Je me suis dit, mais c'est tellement bête, c'est tellement évident, c'est tellement... comment ça se fait que ça n'existe pas ?
Et voilà, l'idée géniale est là.
Et puis voilà, puis après, j'ai passé 15 ans à construire la chose.
Et à le peaufiner, à l'agrandir. Aujourd'hui, Blablacar, c'est une vraie réussite. Alors, 18 millions d'utilisateurs en France, hein, tu me trompes parce que les chiffres évoluent très vite. Hein, 90 millions de membres Blablacar dans le monde, présents dans 22 pays.
Oui.
Voilà, donc 18 millions d'utilisateurs en France, avec de nouveaux services Blabla Daily, on va en parler aujourd'hui. ce qu'il y a de génial dans ce concept, c'est que c'est parti d'un besoin, en fait. Et c'est ça qui est toujours intéressant quand on entreprend, c'est qu'on part d'un besoin en se disant « mais c'est dingue, quoi ». Là, je me retrouve dans une situation insoluble et j'ai trouvé la bonne idée. En fait.
Oui, enfin là, il fallait connaître ma petite sœur, en l'occurrence, mais donc, du coup, pour avoir le trajet. Mais c'est vrai que du coup, en faisant un moteur de recherche complet sur toutes les voitures, bah, on résout le problème et ensuite, on peut tout simplement contacter un conducteur qui a des places libres, partager les frais. Très important, le partage de frais, parce que justement, il y a un équilibre dans la relation entre le passager et son conducteur. Et donc, en partant d'un besoin comme ça, individuel, eh bien, on aboutit sur la possibilité d'avoir un service qui devient un service grand public, justement. Oui. De la même manière, si on part d'un besoin pour une entreprise, on va aboutir sur une solution pour l'entreprise. Enfin, c'est vrai que quand on part du besoin, au moins, on est sûr que, on a la possibilité d'aller créer quelque chose qui va être utile à plein de gens. Enfin, moi, je m'étais dit, ce service-là, s'il existait, si Blablacar existait, je l'utiliserais.
Mais bien sûr.
C'est sûr. Et donc, je me suis dit, je suis quelqu'un d'à peu près normal. Et donc, si je l'utilise, il y a des chances que des millions de gens aient la même envie que moi
de
l'utiliser.
Ça a permis de démocratiser les déplacements parce que c'est beaucoup moins cher que le train. C'est évidemment moins cher que tous les autres moyens de transport. Donc, ça a permis à des gens qui n'avaient pas forcément les moyens de pouvoir retrouver leur famille, de partir un week-end en vacances, etc. etc. C'est ça aussi, cette notion.
C'est moins cher, c'est plus convivial aussi.
Bien sûr.
Que du coup, ça fait des discussions super. Enfin, il y a plein de gens. La plupart des gens qui font du covoiturage ressortent en se disant, j'ai vécu en fait
une expérience humaine.
Ce qui est c'est un peu le voyage dans le voyage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire le voyage tout seul. On fait le voyage en rencontrant des gens.
Et puis, c'est un service qui est universel. C'est pour ça aussi. Ça marche partout.
Partout, il y a des voitures et des téléphones mobiles.
Il y a des pays où ça marche moins bien, on ne sait pas pourquoi, parce que culturellement ou finalement non. Le service est tellement fort que...
Non, il y a l'Angleterre où on n'a jamais vraiment réussi à faire marcher le service. Pourtant, on y avait pas mal investi.
On sait pourquoi ?
C'est difficile. Les types de déplacements ne sont pas exactement les mêmes. Aussi, les distances parcourues sont comparables, mais pas de la même manière. C'est-à-dire que les Anglais, généralement, habitent plus loin de leur lieu de travail. Donc, à l'année, ils font beaucoup, beaucoup de kilomètres, mais ils ne font pas forcément les kilomètres le week-end. Nous, en France, on fait plutôt les kilomètres, une bonne partie des kilomètres le week-end pour aller voir sa famille. Aussi du fait d'avoir un pays qui est pas mal centralisé autour de Paris. Donc, il y a plein de gens qui sont à Paris, mais qui, en fait, ont leur famille ailleurs, en province. Et qui, donc, du coup, font beaucoup de trajets de ce type-là. Il y a aussi la taille du pays. Hein, la surface de l'Angleterre, c'est 6 fois moins que la surface de la France. Donc, après, au niveau des types de trajets, c'est pas les mêmes non plus. Donc, c'est assez difficile d'expliquer pourquoi. Il y a quelques raisons. Mais j'ai envie de dire, au final, quand ça marche très bien, on constate que ça marche très bien. On ne sait pas forcément exactement toujours pourquoi non plus. Et quand ça ne marche pas, ça ne marche pas forcément bien. Mais on ne sait pas forcément pourquoi non plus.
Donc, oui. Et alors, il y a une espèce de pragmatisme, là. Ça ne marche pas en Angleterre. On s'en va d'Angleterre ou on reste
Le service tourne, mais on n'investit pas beaucoup pour le faire grandir.
C'est étonnant.
Par contre, là, on parle d'un cas, effectivement, où ça a été plus difficile. Mais par contre, il y a des pays comme le Brésil ou la Russie. En Russie, il y a 25 millions de personnes sur Blablacar. Je ne sais pas si on se rend bien compte ce que ça veut dire, mais c'est 25 millions de Russes sur Blablacar. et au Brésil, c'est quasiment 10 millions. Enfin, c'est vraiment... Et puis en plus, c'est des croissances très, très fortes. Hein. C'est-à-dire que là, c'est des chiffres... Il faut que je les mette à jour demain, parce que...
Ce qu'on dit va vieillir. Voilà. Alors après, il y a eu quand même l'année 2020, qui était quand même un truc, c'était compliqué de faire pire. Hein,
c'est vrai que quand le président de la République demande à tout le monde de rester chez soi...
De rester chez soi, de pas se coller les uns aux autres, etc. Ça a dû être un peu le stress, là, non ?
C'était une petite chute marrante. On est descendu jusqu'à 0,2% d'activité. C'est-à-dire pas beaucoup.
Bon, cela dit, vous n'étiez pas les seuls. Hein.
Non, c'est sûr. Mais donc, par contre, la beauté de la chose, quand même, c'est la vitesse à laquelle ça rebondit. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu le déconfinement...
Le premier déconfinement l'année dernière,
c'est ça ? Dès la fin du premier confinement, oui, on a revu une nouvelle croissance spectaculaire. C'est-à-dire que notre courbe, vous savez, il y a eu tous les débats sur quelle va être la courbe de la pandémie. Est-ce que c'est un V ? Est-ce que c'est un U ? Est-ce que c'est un W ? Est-ce que c'est je ne sais quoi ? Est-ce que ça rebondit ?
Est-ce que c'est toutes les lettres de l'alphabet ?
Voilà. Nous, c'était un U. C'est-à-dire que vraiment, c'est tombé au moment du début du confinement et c'est remonté tout droit. à la sortie. Parce qu'en fait, c'est extrêmement souple. Un conducteur peut proposer ses trajets pour demain ou après-demain, ou dans 3 jours. Et les passagers, pareil, viennent chercher les places pour demain ou après-demain. Et donc, en fait, c'est un réseau qui redémarre tout de suite. Il n'y a pas besoin d'anticiper 2, 3, 4 mois à l'avance, savoir combien on va affréter de véhicules ou quoi. Donc, le covoiturage est véritablement extrêmement agile de ce côté-là. En plus, alors, si on regarde les chiffres sur l'année 2020, au final, c'est pas catastrophique. Hein. C'est-à-dire que BlaBlaCar a quand même aidé à se déplacer 50 millions de personnes sur 2020 versus 2019 qui était à 70 millions de personnes.
Et vous prévoyiez 100 millions, je crois.
On prévoyait 100 millions, oui. Bah, enfin bon, on a quand même fait 50 millions.
ouais, c'est clair.
Et surtout, par rapport à 2019 qui était à 70, ça fait jamais qu'une baisse de 30%.
En fait, on se rend compte qu'il y a eu vraiment ce creux. Mais après, c'est reparti de plus belle, ce qui fait que ça quasi... Enfin, ça n'a pas compensé, mais...
Voilà, il y a eu un été qui n'était pas mauvais.
Oui, il y a un été qui n'était pas mauvais.
Et puis, donc effectivement, il y a eu quelques stops comme ça avec des confinements. Mais globalement, faire moins de 30% d'activité dans le secteur du déplacement sur 2020, ce n'est pas du tout catastrophique. BlaBlaCar s'en tire un petit peu comme étant l'acteur le plus résistant dans le transport du fait justement de l'agilité de redémarrage de ce réseau de transport qui est complètement spontané, complètement basé sur l'humain, sur la communauté des gens qui se déplacent. Et puis aussi, c'est des trajets qui sont principalement domestiques et pas des trajets internationaux. Donc, c'est aussi des trajets qui ont été beaucoup moins impactés. C'est aussi des trajets plutôt de type loisirs. Donc, c'est des trajets, on va voir sa grand-mère à Paimpol ou sa famille, je ne sais où, ou alors à la plage ou à la montagne.
C'est plus que ça. On parlera de Blabla Daily tout à l'heure. Hein.
Oui,
c'est autre chose.
Du covoiturage, il y a plusieurs, plusieurs activités. Mais déjà, cette activité-là, qui est plutôt une activité de type loisir, a été beaucoup moins impacté que l'activité de type professionnel.
Et alors là, donc, on est tout début juillet 2021. C'est reparti comme en 14.
Oui, c'est reparti très très bien. Déjà, entre la semaine dernière et cette semaine, on a une augmentation de fréquentation de 50%. Donc là, on voit que c'est en pleine accélération. On prévoit 4 millions de voyageurs cet été. Donc là, c'est quand même beaucoup. C'est des gros volumes. On a même tellement anticipé d'avoir beaucoup de volumes, un retour à des très forts volumes, qu'on a affrété, là, pour le coup, 30% de bus en plus cet été par rapport à l'été 2019. Hein. Donc là, je parle des stats 2019 carrément, pas des stats 2020. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de trajets qui vont se faire. Il y a plus de 200 000 personnes qui vont voyager ce week-end en BlaBlaCar. Donc, on combine aujourd'hui, alors effectivement, le covoiturage longue distance, le bus également. On a rajouté 100 destinations par rapport à ce qu'on faisait avant. Rien que ce week-end, il va y avoir 1000 bus BlaBlaCar qui vont être sur les routes. Hein. Enfin, c'est quand même beaucoup.
Ça fait beaucoup de bus.
Je parle des bus là en plus, hein. Je parle pas
bien sûr.
Des voitures, hein, parce qu'après il y a des voitures, il y a beaucoup de voitures, c'est beaucoup plus que 1000 évidemment, là c'est en centaines de milliers, des voitures BlaBlaCar qui vont circuler sur les routes. Donc oui, les volumes sont plutôt complètement à la hausse, on anticipe un très bel été, d'autant plus que on va tous se déplacer en France, hein. Enfin moi le premier, je passe l'intégralité de mon été en France.
Bien sûr, c'est ça, c'est qu'en plus, alors il y aura quelques déplacements européens, mais on va privilégier notre territoire aujourd'hui.
Oui, puis en plus, il faut dire qu'on a... Enfin, là, je vais faire la pub de la France, mais enfin, tout le monde aime la France, mais on a quand même tout en France.
Bien sûr.
Mais on a tout. On a des paysages de montagne à couper le souffle.
Ouais, c'est clair. Il y en a pour tous les goûts.
Je ne sais même pas combien de milliers de kilomètres de plage on a tellement.
Voilà. C'est clair. Et puis il y a la Vendée aussi.
Il y a la Vendée. Là, il ne faut pas trop en parler parce que moi, quand je vais en Vendée, j'aime bien qu'il n'y ait pas trop de monde.
Mais c'est ça. Donc on coupera ça au montage. Non, on va le laisser. Ça sera encore plus rigolo. Juste un mot aussi sur. En fait, on ne se rend pas compte, mais toute l'ingénierie qu'il y a derrière BlaBlaCar, parce que ça demande quand même. Enfin, voilà, quand on est utilisateur et que d'un coup on va être connecté à toute cette communauté et qu'on va trouver des trajets de personnes qui peu ou prou vont faire le même que vous, j'imagine que c'est des algos, c'est quoi?
Oui, alors il y a deux conceptions différentes. Il y a toutes les fonctionnalités, puis après il y a la robustesse de résistance au volume des plateformes technologiques. On ne se rend pas bien compte, mais même si on prend ne serait-ce qu'un moteur de recherche, vous prenez un moteur de recherche, parce que des fois on m'avait dit ça, ah oui, mais ce n'est pas très compliqué, il y a un bouton. Ouais, d'accord. Alors sur un moteur de recherche, effectivement.
Il y a un bouton, c'est vrai.
Il y a quelques boutons, mais alors derrière.
Mais je crois qu'il y a quelques lignes de code quand même.
Voilà, donc c'est ça un petit peu l'informatique. C'est-à-dire que.
C'est ça qui est magique.
Des fonctionnalités extrêmement simples à utiliser au bout, mais alors derrière, pour avoir rendu la chose simple, il a fallu pas mal mouliner. un service comme BlaBlaCar, ça va être l'équivalent de milliers de serveurs qui sont déployés derrière pour faire tourner le volume. Hein, parce que quand on parle comme ça de 18 millions de Français, 90 millions de membres dans 22 pays, donc déjà 22 pays, ça veut dire 22 langues, donc il faut gérer toute la complexité. Mais après, il y a les fonctionnalités, évidemment, de répertoire, de l'intégralité de toutes les villes, tous les points d'arrêt possibles, tous les horaires possibles, tous les trajets, tout la mise en correspondance d'une recherche d'un passager avec tous les trajets qu'on peut avoir en base, enfin, voilà, partout sur la planète. Enfin, ça, forcément, c'est un petit peu compliqué. Mais alors, on a poussé la chose plus loin, puisque là, justement, pour aller dans le sens de maximiser les probabilités pour qu'un passager trouve le trajet qui lui correspond.
C'est Boost.
On a rajouté une nouvelle fonctionnalité Boost. Tu vois que tu es bien renseigné.
Oui. Et donc, merci Laure.
Oui, donc Boost, c'est la fonctionnalité qui multiplie par deux déjà les chances pour un conducteur d'avoir des passagers sur son trajet. Tout simplement parce qu'il publie son trajet en disant je pars de là et je vais passer par telle autoroute ou par telle route. Donc il nous donne quand même vaguement son itinéraire, enfin en gros il y a toujours deux trois itinéraires possibles, et il nous dit bon bah moi je passe par là. Une fois qu'il nous a dit ça, nous on a le trajet avec son itinéraire dans la base, et quand il y a un passager qui vient chercher un trajet, on est capable de lui dire ah mais il y a un conducteur qui passe là, exactement là, et donc tu vas pouvoir lui demander un point de rendez-vous à tel endroit, à tel rond-point, à telle aire d'autoroute, à tel je ne sais quoi, et tu vas pouvoir te faire déposer là, et c'est exactement ton trajet. Donc en fait on est capable de maximiser les chances pour un passager, j'ai envie de dire, d'attraper un conducteur qui passe pas loin de là où il est et qui va pas loin de là où il doit aller.
Après, sur les autoroutes, ça oblige le conducteur à faire des détours. Parce que...
Alors, non, mais là, on s'arrange quand même pour que ce soit juste, s'il faut, à une sortie d'autoroute. Donc, il suffit de sortir, de rentrer.
Ouais, oui, c'est ça.
Enfin, c'est pas vraiment un détour. C'est-à-dire qu'on s'arrête.
C'est un petit stop.
C'est un stop,
on va dire.
C'est un stop.
Mais c'est génial, ce truc-là. Mais ça va optimiser les chances de trouver
C'est deux fois plus de chances pour les passagers d'avoir des trajets. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé d'être au même point de départ ou au même point d'arrivée qu'un conducteur. Bon, on avait déjà des fonctionnalités qui faisaient qu'on était capable de gérer des mille étapes. Mais là, on va vraiment, vraiment un cran plus loin, beaucoup plus avancé technologiquement aussi, pour être capable d'aller proposer des trajets en calculant les itinéraires, justement, en temps réel, avec les temps de passage, avec tout ce qui va.
Cette fonctionnalité, ça demande énormément de puissance de calcul. C'était pas possible de le faire, par exemple, en 2004, ça ?
Alors,
2004 ou même 2010,
Non, mais en informatique, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sont possibles. La question, c'est pas toujours est-ce que c'est possible, c'est est-ce que c'est réaliste. Donc déjà, pour pouvoir proposer ça, il faut déjà avoir pas mal d'opportunités de faire effectivement des matchings entre des conducteurs et des passagers. Et au-delà de ça, on ne peut pas déployer toute la technologie dès le début. On est obligé d'aller quand même de manière un petit peu
Incrémentale.
Oui. Ouais. Donc, j'ai envie de dire, est-ce que c'était possible en 2004? Je ne pense pas que c'était possible avec la rapidité et l'efficacité qu'on est capable de déployer aujourd'hui. J'ai envie de dire, au niveau fonctionnalité, oui, on savait faire des algorithmes qui pouvaient le faire. Est-ce qu'on savait les faire de manière à ce qu'ils tournent sur une communauté de 90 millions de personnes dans 22 pays?
Sans doute pas.
Non, sans doute pas.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'entité Blabla est très BlaBlaCar est très agile. Hein. Maintenant, il y a Blabla Daily aussi, qui est un autre. Alors, c'est toujours du covoiturage, mais qui est un covoiturage, on va dire, professionnel en quelque sorte. Et ça, c'est aussi une tendance très forte. On se rend compte aujourd'hui que les transports, toute la structure de transport ne permet pas de rendre possible un déplacement pour une personne de chez elle jusqu'à son travail. Il y a des personnes qui vivent loin d'un arrêt de bus, d'une gare de RER ou d'un métro. Et là, justement, votre concept, c'est de, avec Blabla Daily, de prendre ces personnes et de les amener au travail, c'est ça ?
Oui, alors c'est un service qu'on a lancé il y a quelques temps. On avait juste avant la pandémie, on avait une croissance de x10 d'une année sur l'autre. Donc c'était vraiment beaucoup. On a 1,5 million de personnes inscrites sur BlaBlaCar Daily. Et on avait fait plus de 100 000 covoiturages sur le mois. Enfin bon, on était vraiment parti
très fort
jusqu'à la mi-mars.
Mais bien sûr. Mais là, c'est vrai que ça en plus, ça répond à un besoin.
Voilà, et là, ça repart. Et en fait, le besoin, il est assez simple. C'est que aller en voiture le matin et le soir au travail, ça permet d'économiser généralement du temps par rapport à des solutions de transport en commun quand il y en a, qui sont plus longues. C'est-à-dire qu'on a quand même deux tiers de, des utilisateurs de BlaBlaCar Daily qui gagnent plus de 30 minutes sur leur trajet le matin et sur leur trajet le soir grâce au covoiturage, c'est-à-dire qu'ils gagnent une heure par jour. Alors, on est quand même sur quelque chose de significatif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le réseau de covoiturage basé donc sur les déplacements en voiture de tout le monde vient en complément, j'allais dire parfait, à un réseau de transport en commun. Pourquoi ? Parce que là où il y a beaucoup de voitures qui circulent, généralement, c'est que les liaisons de transport en commun ne sont pas optimales.
Et oui.
Oui, enfin c'est
forcément,
voilà,
c'est logique.
C'est extrêmement logique. Et donc du coup, parce que si les personnes elles ont une solution de transport en commun qui est efficace, ils vont la prendre. Hein. Enfin, quand il y a une solution de transport en commun rapide et efficace pour aller travailler, on
oui, il n'y a pas mieux.
Voilà. Quand on n'en a pas, eh ben on prend sa voiture. Donc du coup, nous on complète le réseau de déplacement de transport en commun par un réseau de déplacement en covoiturage, tout simplement parce que là où il n'y a pas de train, il y a des voitures.
Et ça marche bien.
De tramway et de bus.
C'est ce que tu disais, ça marche
bien. On voit que ça réaugmente. On a pareil une augmentation de fois deux sur les dernières semaines. Donc ça repart. Le vrai démarrage pour nous, ce sera à la rentrée. Après, la très bonne nouvelle par rapport à l'activité de covoiturage domicile-travail, c'est que bon, alors on l'a compris, c'est un réseau de transport en commun latent. Hein. C'est-à-dire qu'il y a tout. Un réseau de transport en commun, c'est quoi ? C'est des routes, c'est des véhicules, c'est des gens qui conduisent et c'est des horaires. On a tout dans le covoiturage. C'est-à-dire qu'on a effectivement les routes, on a les voitures qui se déplacent tous les matins, tous les soirs, on a les conducteurs qui de toute manière sont là et la voiture est toute vide. Et en plus, on a les bons horaires parce que c'est les horaires du matin et du
les
soir,
horaires de
c'est
bureau.
Ceux dont on a besoin pour se déplacer. Donc on a déjà tout dans le réseau de transport en commun. La bonne nouvelle, c'est que ben, maintenant, on met à disposition ce réseau de transport en commun pour les passagers qui veulent se déplacer et on entre dans les programmes, notamment de régions et de tous les organismes qui s'occupent des transports sur une zone géographique.
Et les subventions,
voilà,
transport.
Pour être pris en compte. Donc, notamment en Île-de-France, on a réussi à faire en fait, en discutant bien avec la région Île-de-France, et ils ont été super pour ça, Île-de-France Mobilité, à faire en sorte que les personnes qui ont un pass Navigo eh bien, peuvent faire du covoiturage gratuitement.
Ça, c'est top.
Et le conducteur récupère quand même une participation aux frais de l'ordre de 3 euros pour chaque passager qui va monter dans sa voiture.
Donc, mais personne n'est lésé.
Chaque conducteur devient quelque part une partie du réseau de transport en commun global. Les passagers peuvent se déplacer gratuitement en utilisant le covoiturage et les conducteurs eh bien, reçoivent une participation aux frais qui leur permettent d'alléger leurs coûts. Donc là, on est quand même sur un modèle extrêmement vertueux et bien intégré dans les transports en commun qui vient, encore une fois, en complément au niveau du réseau de ce qui existe déjà. Et on voit qu'on a, alors on a réussi à développer ça aussi également dans la région Pays de la Loire et dans le Genevois. Alors, je pense que c'est qu'un début. On va réussir à le mettre un petit peu partout. Mais c'est vraiment ça qui change la donne sur le covoiturage domicile-travail le matin et le soir.
Eh bien, voilà. Et on n'a pas parlé des tonnes de CO2 économisées.
Et de la convivialité.
Voilà. Et de la convivialité.
Les tonnes de CO2, c'est 1 600 000 tonnes de CO2 économisées chaque année. C'est plus que l'intégralité des émissions de CO2 du trafic routier d'une ville comme Paris. Donc, on compense plus que tout le trafic routier de Paris.
BlaBlaCar, voilà, vous serez peut-être à bord d'un véhicule en passant par BlaBlaCar cet été. Bonnes vacances d'ailleurs à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup Frédéric. En Vendée forcément, pas que mais peut-être
pas que Vendée et Bretagne.
Merci en tout cas d'être passé par De Quoi Je Me Mêle. Ce De Quoi Je Me Mêle est terminé. Juste pour vous signaler que la semaine prochaine, petit break, on reviendra la semaine d'après, avant les grandes vacances. Merci de nous suivre. Le hashtag DQJMM sur Twitter, bien sûr, sur la page Facebook, on est là aussi. Portez-vous bien et à très bientôt.
De Quoi Je Me Mêle sur BFM Business et 01 TV.